14h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous. Retrouvez Cesse Gaou et ses invités dans le Club de la Presse tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend. Rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nouveau rendez-vous du Club de la Presse sur votre radio. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission d'actualité. 90 minutes pour analyser les sujets commentés dans la presse ce jour. Thomas Datevi assure la mise en onde. Jérôme Akoucha est à la mise en ligne. Radio Lumière, Radio La Paix, Centrale FM, Radio Daoul, Sama FM et Radio Courtoisie sont les 6 radios partenaires qui reprennent Club de la Presse à l'intérieur du pays, en direct pour certaines, en différé pour d'autres. Partout où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez nous suivre grâce à l'Internet à travers les plateformes digitales de Canal FM, notamment Facebook, YouTube et canalfm.com. Autour de la table ce jour, Isidore Akolor du journal Actu Express. Bonjour Isidore.
Bonjour Fousseni, bonjour chaque confrère ici présent, bonjour à l'invité que je ne vais pas dénoncer. Et je vous laisse la primeur de le dénoncer, même s'il est très connu. Et de la reine, et bonjour à toutes et à tous.
Okay. Eric Johnson du journal L'Union. Bonjour Eric.
Bonjour Fousseni, bonjour Isidore, bonjour l'invité. L'invité confrère, hein, en même temps.
Alors, nous avons
bonjour, aussi... chers amis, oui, auditrices et auditeurs de Canal FM.
D'accord. Alors, comme vous l'avez annoncé, nous avons un invité que nous allons vous faire découvrir dans un moment, d'un moment à l'autre. Moi-même, je me nomme Fousseni Saïbou. Le débat démarre dans un instant. Aujourd'hui, nous parlons culture avec Eric Johnson. Le journal L'Union annonce un événement culturel et écrit numérique, lancement du Togo Immersive le 20 janvier prochain à Goethe Institute. Alors, Eric, de quoi est-il question ?
En fait, Togo Immersive, c'est un projet qui est financé par l'Institut français du Togo et le Goethe Institute pour rassembler Il s'agit d'une exposition numérique d'abord, hein, qui rassemble les sites touristiques naturels du Togo. Et donc, on peut y trouver le palais de Lomé, le palais
la zone de marque,
Le site des esclaves à Baudrenfort. Vous avez les grottes de Noc, si vous connaissez, c'est dans les savanes. Et vous avez également les maisons Bata Mariba, les temples Tamberman, etc. Donc, il s'agit d'une exposition numérique qui rassemble tous ces sites numériques du Togo qui sera projetée à l'Institut Goethe le 20 janvier prochain.
D'accord.
C'est une collaboration entre l'État togolais et les deux instituts dont je venais de parler tout à l'heure.
D'accord. Alors, je voulais placer un mot.
Oui,
parmi les sites touristiques, quand vous suivez la route de l'esclavage clandestin, parce que c'est ça la particularité du Togo, c'est quand on avait détruit Badagli que les gens se sont réfugiés au Togo pour pratiquer l'esclavage clandestin. Mais il y a un pan de la chose que les gens ne arrivent pas. Quand les gens sont convoyés, ils atterrissent ou ils parviennent à Nehor, dans le palais de l'Oland. Il y a un sceau là-bas pour identifier les patrons. Et ça existe jusqu'à présent.
Bien sûr.
Et les gens n'en font pas cas. Ça doit faire partie aussi des patrimoines. Quand on veut tracer la route de l'esclavage.
Effectivement.
Oui, en réalité, quand on prend les sites culturels et naturels, et on va essayer d'aller plus en profondeur de ces sites-là pour montrer tout ce qu'il y a comme
vestiges
naturels. Surtout parce que les Togo Immersion, c'est de ça il s'agit. Montrer les sites que nous avons au Togo pour en faire quand même un truc. C'est comme un documentaire sur le site naturel et culturel du Togo.
D'accord.
Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est tout à fait normal. Quand on va à Lonlamé, donc on va trouver le palais. Et là, c'est un site touristique aujourd'hui parce que ça date de très très longtemps. Et donc, on va aussi montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce site. Ça intéresserait surtout notre invité aussi.
Nous aurons l'occasion d'en parler avec lui. Et puis, Eric, les témoins célébrés ce samedi à Dosa Gadao, leur fête traditionnelle. À Dosa Gadao, c'est la danse des couteaux. Une particularité nationale. Les populations retrouvent progressivement donc leur joie autour de leur fête traditionnelle après 2 ans de pause, vous le savez, à cause de la crise sanitaire. Voilà, ça fait plaisir quand même de revivre cet engouement autour de ces célébrations comme ce qu'on a vu samedi dernier à Sokodé, n'est-ce pas?
Sokodé. Effectivement, tu sais, je n'avais pas le calendrier de cette célébration-là. Mais c'est un ami avec qui j'avais rendez-vous et qui me disait non, que nous ne pourrions plus nous voir ce week-end parce que il doit aller à Sokodé pour la célébration de
Adosa
Gadao. Et donc, c'est là que j'ai appris. Je dis, ah tiens, c'est très important parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à une danse Adosa, c'est comme
Adosa,
ça.
Oui.
Adosa. Mais c'est toi qui dois plutôt nous dire beaucoup plus sur le sujet. Mais c'est très intéressant parce que là, c'est la revitalisation de notre patrimoine culturel. Et il faut dire que cette fête-là était en train de partir. Surtout un peu après les événements de
Covid.
Non, pas seulement. Avant tous ces événements, là, c'était pendant les périodes de troubles politiques, etc. Donc, en cette période-là, on était en train d'aller vers la disparition de cette danse. Mais les natifs de ce patrimoine, on dit non, il faut qu'on remette cela sur les selles, et c'est ce qui est fait. Le samedi dernier, véritablement, il y avait une fête. Hein. Mmh. Il y avait une fête. J'ai vu des vidéos, j'ai écouté de la musique traditionnelle, thème. Mmh. Et c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir. Voilà. J'ai vu des gens, vous savez, au cours de cette danse, je ne vous apprends rien. Mmh. Les gens prennent le couteau, même la scie, etc., pour se tailler le ventre.
Des lames également
pour sortir les yeux. Tout ça. Mmh. Mais ça fait un peu peur quand même, hein, si tu n'es pas du milieu. Hein, mais après tout, c'est la culture qui est en train d'être revitalisée.
J'aimerais placer un mot. Oui, il y a un vieux un peu ventru qui passait ici et faisait la démonstration à Lomé et mettait des épingles même dans
le nez.
Et dans le nez, tiens. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, moi? Je ne sais pas.
Non, je ne le connais pas.
Oui, si, je le connais aussi. À Lomé, il y a ce vieux-là qui passait de quartier en quartier. Et il vivait de ça, en fait.
Il faisait la démonstration.
Il fait la démonstration. Les gens lui passaient quelques pièces ou billets. Mmh. Ça dépend. Mmh. Mais c'est un truc pour vous dire que, quand même, nous avons encore des choses que nous pourrons valoriser chez nous. Effectivement, ce vieux-là a disparu depuis quelques années. On ne le voit plus dans la capitale. Peut-être qu'il s'est...
Non, il est retourné au Bercail, peut-être.
Non, il était, parce qu'il était très âgé.
Il était âgé.
Oui. Et donc, ce qu'on a vu le samedi dernier, très franchement, c'était très beau à voir. D'accord. Il faut avoir aussi le cœur, parce que vraiment, quelqu'un qui sort son œil, qui coupe l'œil avec une lame toute neuve, franchement, C'est touchant.
D'accord. C'est de la précipitation.
Merci à vous tous. Alors, parlant de célébration, le peuple togolais s'est souvenu le 13 janvier dernier de l'assassinat du premier président de la République du Togo, j'ai nommé Sylvanus Olympio. C'était le 60e anniversaire de cette disparition. L'alternative titre, Sylvanus Olympio, le modèle togolais. Déclassification des archives sur son assassinat. Maître William Wall se confie dans une interview exclusive. À la une du journal Telegram, Afrique Togo, Sylvanus Olympio, le modèle togolais, homélie de Monseigneur Nicodème Bariga. Nous avons besoin d'un homme, ou plutôt nous avons besoin d'hommes et de femmes investis et audacieux, capables de surmonter les obstacles avec détermination comme Olympio. Alors, Isidore Akola, vous avez dans votre journal Actu Express, on peut lire, il y a 60 ans, voici les conditions abominables dans lesquelles le président Sylvanus Olympio a été assassiné.
Ah oui, et ce n'est pas un article de Actu Express, c'est plutôt des archives proposées par Claude Amegavi que nous avons repris. Donc, il y a assez d'éléments. D'abord, les circonstances de sa tuerie, de son assassinat. Après l'avoir criblé de balles, mais on l'a carrément décimé. On a coupé ses artères au niveau des bras, des pieds, et toutes ces choses. Et puis, moi, à l'époque, nos grands-mamans disaient que, bon, on a voulu même le traîner son corps. Dans les rues, il a fallu que Père Bipi intervienne pour reprendre le corps et l'emballer et l'aller enterrer à Guadigo. Bon, voilà. Mais maintenant, bon, ces choses-là reviennent. Que, bon, aujourd'hui, c'est une page noire.
La vérité refait surface.
Est-ce que c'est la vérité? C'était point d'être. Parce qu'il y a beaucoup de versions autour de la mort de Sylvanus Olympio. Donc, c'est une page noire de l'histoire du Togo qu'on doit élucider vivement, qu'on puisse y arriver.
D'accord. Alors, vous voulez parler?
Oui, je pense que finalement, le décès de Sylvanus Olympio, jusqu'aujourd'hui, n'est pas complètement élucidé à la population. 60 ans après, on n'a pas toujours la bonne version de cet assassinat qui était le premier en Afrique noire, où un chef d'État qui est élu démocratiquement a été assassiné pour des raisons également qui ne sont pas aujourd'hui connues. Je crois que il est de bon ton que les historiens s'asseyent pour nous dire clairement ce qui s'est passé, parce que la jeunesse a besoin de savoir, parce que notre histoire, notre vie commune commence par là, parce qu'on a dit nous sommes indépendants. Est-ce que nous avons cette indépendance-là lorsque on vient citer encore des Européens qui ont été au cœur de cet assassinat? Est-ce que nous avons cette indépendance-là, cette indépendance politique, économique, culturelle, etc. Donc, je pense qu'il faut véritablement qu'un travail soit fait pour que la jeunesse connaisse l'histoire de notre pays à partir de l'assassinat de Sylvanus Olympio.
D'accord.
Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de versions, comme le disait tantôt Isidore, il y a beaucoup de versions sur cet assassinat. Si chacun devait prendre une version pour son compte, ça veut dire que finalement le pays ne sera jamais uni. Il y aura toujours cette division, parce que le père de la nation, on n'arrive pas à dire comment il a été assassiné, les raisons pour lesquelles il a été assassiné et qu'est-ce qui a suivi après. Et donc on est dans un flou total et il faut qu'on nous élucide véritablement cet assassinat. D'accord. Parce que c'est écœurant que chaque peuple a son histoire, mais nous autres Togolais, nous n'avons pas notre histoire.
D'accord. La Voix Express évoque aussi l'une des raisons qui ont conduit à l'assassinat de Sylvanus Olympio, notamment la création de la monnaie togolaise et de la Banque centrale du Togo. Alors, Isidore Lakoro, 60 ans après cet événement malheureux, la question de la souveraineté monétaire reste d'actualité en Afrique. Je peux même dire qu'elle est aujourd'hui beaucoup plus d'actualité que jamais. On dirait que le président Sylvanus Olympio a eu raison très tôt.
Eh bien, il est en avance sur son époque. Parce qu'il dit que vous n'aurez aucune souveraineté sans avoir à frapper votre monnaie. Et il y avait une loi sur, depuis 1962, que la loi est même, on avait eu une copie du spécimen de la monnaie togolaise 500 francs qu'on a publié aujourd'hui. Donc déjà, tout est à fait prêt. Et fait prêt plutôt. Et les gens pensent que bon, c'est ce qui lui a valu sa mort, parce que bon, le 14 janvier, la monnaie devait sortir et le Togo devait avoir sa propre monnaie et sa banque centrale et sa devise. Et ce qui n'a pas plu aux Français, parce que n'oublions pas que Sylvanus Olympio a une culture anglo-saxonne. Il a été à Cambridge et University. Et donc, la plupart des pays anglo-saxons, africains anglo-saxons, d'obédience anglo-saxonne, le Ghana a sa monnaie, le Nigeria a sa monnaie, toutes ces choses-là. Donc, il est dans cette logique de pouvoir créer la monnaie togolaise. Et ça n'a pas plu à la métropole. Et bon, voilà. Il a été décimé. Malgré ça, bon, aujourd'hui, les gens prennent ça. Les Africains veulent sortir du franc CFA parce qu'on ne peut pas comprendre 60 ans d'années de 50 ans d'indépendance. Vous n'avez pas la possibilité de créer votre monnaie. Voilà, là, c'est une lutte d'avant-garde et c'est un visionnaire, Sylvanus Olympio. C'est un gâchis pour le Togo.
C'est un gâchis pour l'Afrique également.
Puisque voilà. À l'époque où on l'a assassiné, c'était lui qui écrivait la charte l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine.
Devenue Union africaine.
Union africaine, et je me souviens, il y a un adage qui dit que Mipo Gomela Addis Abeba. C'est-à-dire que juste après sa mort, quand la délégation togolaise était arrivée à Addis Abeba, on a dit non. Vous ne pouvez pas participer à cette rencontre parce que c'était une icône et polyglotte, puis parle français, anglais, allemand, espagnol et fond et tout, même la langue du couvent. Il paraît qu'il y parlait, donc c'est quelqu'un qui est en avance sur son époque et malheureusement. Il a été décimé.
D'accord. Alors, la question est d'actualité, Eric, mais on a l'impression que cette souveraineté monétaire ne viendra pas de sitôt. Même s'agissant du projet de création de l'éco, la fameuse monnaie commune régionale, les acteurs peinent à trouver un consensus.
Oui, d'abord, je voudrais un peu revenir sur l'histoire pour dire que Sylvanus Olympio, c'est un économiste. Quand vous regardez un peu le schéma de l'Afrique en cette période-là, dans les années 60, il était le seul économiste parmi tous les chefs d'État à être au pouvoir. Et Isidore disait qu'il parlait beaucoup de langues. Il faut pas oublier qu'il a fait l'Allemagne. Là, il a fait ses études en Allemagne. Après, il s'est retrouvé en Angleterre et vice-versa. Et pour l'histoire, et je crois que Sylvanus Olympio était même pressenti devenir le secrétaire général
de l'ONU.
L'Organisation des Nations Unies.
Il a décliné l'offre.
Il voulait coûte que coûte travailler pour son pays. Il a dit, je suis patriote, je ne veux pas... aller jusque-là, mais je vais transposer toute mon énergie, toute ma connaissance pour aider mon pays à se développer. Et parlant de la monnaie togolaise, je pense que Sylvanus Olympio, son péché mignon, c'est qu'il a été trop vite. Il a été trop vite en besogne, si je puis m'exprimer ainsi, parce que aussitôt pensé, il s'est rendu à l'Assemblée nationale pour dire, voilà, à partir de 14 janvier, nous allons utiliser notre monnaie. Alors, la question était de savoir où est-ce que cette monnaie-là a été fabriquée.
C'est en Allemagne.
Et de quelle manière? Donc, vous savez que au niveau des Européens, il y a eu ce partage-là de l'Afrique, où les Français avaient leur part, les Anglais,
la zone d'influence,
chacun avait sa zone d'influence. Et donc, à partir de ce moment, si Sylvanus Olympio peut taper cette monnaie-là en Allemagne, ça veut dire qu'il veut couper, il veut rompre avec la France, ce qui n'était pas du tout du goût de ce pays colonisateur.
Aujourd'hui, non, il n'est pas colonisateur. Nous sommes sous mandat.
Mais disons que quand on parle des relations entre le Togo et la France, on dit le pays colonisateur. Le Togo était sous mandat français. Il faut le dire. Bon, aujourd'hui, avec l'écho, ce qui se passe, c'est que ils ont encore repoussé la date. Ils ont dit 2025. Donc, on va attendre pour voir ce qui va se passer. Mais en réalité, les voix s'élèvent pour dire que nous avons besoin de notre monnaie. Nous avons besoin de notre monnaie parce que, regardez un peu notre agriculture, où le professeur Kakonubupo dit, si nous arrivons nous-mêmes à fixer les prix des produits de rente que nous cultivons chez nous, il pense que nous avons déjà notre monnaie. Et à partir, par exemple, du coton, on peut asseoir une économie de l'Afrique. Et donc, Je dis, s'ils disent qu'ils ne peuvent pas le... Ils attendent 2025 pour démarrer cette monnaie, je sais qu'il y aura encore des groupes d'influence qui vont faire en sorte que cette donne-là ne soit pas respectée.
Ok. Alors, on parlait à présent de l'urbanisme. Eric, malheureusement, nous allons rester avec vous. Il avait été annoncé par le ministre de l'Urbanisme la construction des logements sociaux au Togo. Des contrats avaient été même signés entre l'État et certains investisseurs. Mais depuis, le projet semble piétiner. Le ministre de l'Urbanisme a donné les raisons de cette situation. Votre journal, L'Union, titre projet de 20 000 logements, voilà, et de très sérieuses inquiétudes à gérer selon le ministre. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Ah oui, je vais juste vous citer ce qui a été dit. Que, nonobstant les résultats obtenus, il y a très sérieuses inquiétudes par rapport à l'impulsion à donner à un programme phare sur lequel le ministère sera évalué. Le programme de 20 000 logements. Le programme pour le ministère, des efforts doivent être menés en vue d'aboutir aux résultats escomptés avant fin 2024, quelques mois avant l'échéance de la feuille de route gouvernementale. Donc, en réalité, il y a beaucoup de paramètres.
D'accord.
Vous savez que il y a depuis près de 10 ans des sociétés qui viennent au Togo, soi-disant qu'elles peuvent construire des logements et automatiquement des contrats sont signés. Mais lorsque ces contrats-là sont signés, après quelques années, un an, deux ans, trois ans, on ne voit rien. Alors que des sites sont même pris pour la faisabilité de la chose. Mais finalement, on se demande qu'est-ce qui ne marche pas. Alors, vous savez que ces sociétés-là, mais ce sont des marchands.
Voilà.
Ils viennent.
Ils cherchent le profit.
Voilà. Donc, quand ils ont l'intention de venir, après l'étude de faisabilité, ils se rendent compte que finalement, ce truc-là ne sera pas très rentable pour eux parce que le Togo a des obligations, sinon l'État togolais a des obligations vis-à-vis de ces populations. Vous n'allez pas loger quelqu'un de force, mais des gens viennent de leur propre gré pour s'installer. Mais lorsque l'on va fixer, par exemple, les prix de ces logements, mais pour le Togolais un moyen, ce ne sera pas possible. À partir de ce moment, il faut trouver la bonne formule pour que ces logements-là soient effectivement faits et que les gens puissent les prendre et que ceux qui investissent puissent avoir le retour sur investissement. Si cela n'est pas possible, évidemment, ces projets-là sont à l'eau. Et je parle sous le couvert de la
il va réagir après. on verra.
Non, moi, je veux dire, parce que vous savez aussi que les gens ont l'expérience ailleurs. Et quand vous prenez le coût de la vie par rapport au nôtre, c'est pas la même chose. Ce que vous faites, par exemple, en Côte d'Ivoire, en termes d'habitat, vous ne pouvez pas remettre la même chose au Togo pour avoir les mêmes bénéfices.
Ouais, les niveaux de vie diffèrent. Mais,
voilà. Et donc, ça joue beaucoup sur ce qui se passe. Maintenant, il y a le ministère qui dit qu'il faut faire la chose autrement. Et donc, on va passer par séquence. On ne va plus y aller tout dru pour rentrer dans le mur. Mais il faut aller par séquence. Et je crois que si cette formule-là est respectée, donc l'échéance 2024 sera une bonne échéance puisque la feuille de route gouvernementale finit en 2025.
En 2025.
Isidore Akolo. Ah oui, pas de feuille de route gouvernementale. On n'a pas terminé le PND qui devait continuer. Mais voilà, c'est vraiment triste pour le Togo. Je reste nostalgique des années 80 où feu de Boigny était venu au Togo Et il a vu que les Togolais étaient très entreprenants et voulaient avoir leur chez, c'est-à-dire une petite maison, quelque part où dormir, et c'était ça, le rêve de tout fonctionnaire togolais. Et c'est de là que Foufouette Boigny est rentré, il a pris l'initiative des HLM, les habitats loyers modérés, qu'il donnait, qu'il cédait à tout jeune fonctionnaire qui payait jusqu'à ce qu'il soit propriétaire de ça. Il ne s'est même pas inspiré de cette pratique. On est rentré dans les logements, les logements sociaux, qui n'ont jamais pris corps.
Il y a un projet au niveau de...
Où en sommes-nous? Et on a logé, dans l'ancêtre du lycée technique. C'est dans l'ancêtre du lycée technique. Ça fait partie du lycée technique.
Le prolongement.
Non, quand même, c'est pas sérieux. On a des urbanistes ici, ils vont dire, mais quand on avait conçu ce lycée technique, c'est écoutez, maintenant on loge des gens de trucs là-bas. D'abord, c'est indécent.
Il y a de l'espace.
Il y a de l'espace. Mais c'est prévu pour d'autres choses. Le lycée devait aller à une université technologique. Selon les visions du Togo. Donc on a tout bafoué, on a cisaillé, on a morcelé le territoire. Aujourd'hui, vous allez au lycée technique, il n'y a même plus de terrain de football. C'est bizarre.
Et Alifat
qui
est... Donc moi, je reste perplexe sur ces projets de logements sociaux et qui vont vous coûter 20 voire 30 millions. Mais quel Togolais lambda pouvait se le permettre? Même quand tu commences à faire des prêts, tu es classe B, catégorie B ou A même les catholiques A ne peuvent pas se le permettre. Voilà la situation. Je me dis que ce sont des projets mort-nés. Bizarrement, et personne n'a vu venir. Quand on en parlait, on nous traitait des oiseaux de mauvais augure. Et la situation est là qui nous frappe dans le... Regardez, quand vous voyez même et la structure de Mokpokpo, moi je ne peux jamais aller me loger là-bas. C'est comme des poulaillers.
Oh là là,
c'est comme des poulaillers. Non, soyons sérieux, c'est comme des poulaillers. Il n'y a même pas d'espace.
Ça va plaire à certains.
Mais la même chose a été répétée. La même chose a été faite déjà au niveau, en allant vers Anero. La cité au niveau de Bagida ou à Beposo. Mais combien de gens logent là-bas?
D'accord.
Je voudrais juste dire un petit mot. C'est... Par exemple, pour les logements sociaux là, avec la société Shelter, qui a fait de très bonnes propositions, mais finalement, qui a dit qu'elle va investir 13 milliards dans ce projet-là, et le Togo va payer ce fonds-là à un taux de 1,7% et sur 7 ans. Alors les autorités togolaises ont dit c'est trop élevé et donc ils ont également trouvé le délai trop court. Et là, le ministre Tcholenyanou, au cours d'une rencontre les 5 et 6 derniers...
Il vient d'arriver.
Oui. Mais il a dit clairement... Il a dit clairement que avec ce taux-là, le Togo ne pourra pas soutenir. D'accord. Et donc, voilà autant d'inquiétudes pour ces logements
sociaux. Donc, c'est un projet mort-né.
D'accord. Non. Ça continue. Ils ont commencé les études techniques. Attend de voir.
D'accord. Après l'avoir implémenté.
Merci à vous deux. Nous restons dans ce secteur de l'immobilier pour accueillir notre invité du jour. L'Ordre national des architectes du Togo lance la seconde édition de son projet intitulé L'ONATS à la rencontre du Togo, en abrégé ORT, un projet d'utilité publique et sociale au bénéfice des collectivités et des populations. Nous allons en savoir un peu plus dans cette émission et c'est grâce à quelqu'un qu'on ne présente plus, mais nous allons le faire quand même. Patrick Amenda, bonjour.
Bonjour Fousseni, bonjour Eric, bonjour Isidore,
et bonjour,
bonjour à tous bonjour. Les auditeurs ainsi que tous les internautes de Canal FM qui nous suivent sur les différents canaux.
Alors, vous êtes le porte-parole de l'ONATS. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, voulez-vous bien nous expliquer brièvement ce que c'est qu'un architecte?
Oui, mais est-ce que j'ai la permission de dire quelques petits mots sur les sujets dont vous avez parlé?
D'accord, non, allez-y. Non, oui, allez-y.
C'est très important.
Bon, on savait, on s'y attendait.
on vous interpellait depuis.
Non, d'abord, je voudrais sans flatterie, vous dire toute l'admiration que j'ai pour l'émission. Je me suis toujours dit, quand je regarde un certain nombre d'émissions radio dupliquées en télé, que même si aujourd'hui le Facebook sont des canaux, etc., je crois qu'il faudrait très sincèrement que le club de la presse soit dupliqué en télé, soit sur la télévision nationale ou sur New World, qui fait notre fierté à l'international, peu importe. Mais je crois très sérieusement que vous avez une façon, on va dire, assez objective, même avec des interlocuteurs totalement antagonistes, de traiter les sujets de ce Togo qui nous passionne tous, même si parfois nous l'exprimons de façon totalement différente. Donc,
merci beaucoup, ça nous va droit au cœur.
Je suis, en tout cas, je suis un fan inconditionnel de votre émission, parce qu'encore une fois, vous essayez de faire la part des choses, même encore une fois, comme je le dis, avec des invités qui peuvent avoir des antagonismes violents. Je ne dis pas dans le sens de la violence, mais je parle plutôt des positions qui peuvent être diamétralement opposées.
D'accord.
Et c'est une excellente chose pour le Togo pluriel dans lequel nous aspirons tous à vivre. Je pense que c'est une excellente chose.
D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, réaction
Sur les différents petits sujets, moi je suis heureux que vous parliez d'Adossa Gadao, parce que bon, c'est mes beaux-frères. Disons
ah,
que,
d'accord.
À ma
alors,
place que,
ah, alors, moi, j'ai après, toujours mon honneur à secourir. On se verra. Non. Tu es amendable.
Non, il n'y a aucun problème.
D'accord.
Je ne peux donc pas avoir... je ne peux pas manquer de reconnaissance pour... pour mes beaux-frères, justement, et je suis heureux que, un peu comme toutes les autres préfectures, que la célébration de l'Adossa Gadao puisse repartir. C'est vrai aussi que nous sommes tous bluffés par ce qu'ils arrivent à faire avec les aciers, les métaux, je sais pas ce que. Mais je me dis toujours que quand on montre ça, il faut pouvoir montrer en dessous à la télévision. N'essayez pas ça chez vous, comme on dit souvent.
Voilà.
C'est. Ben disons que c'est
pour les initiés.
Ces actes, c'est pour des initiés qui sont faits, et donc n'essayez même pas ça chez vous. Vous allez verser vos viscères dehors tranquillement. donc toutes mes salutations à tout le pays thème, à qui je souhaite bonne fête, en tout cas, et bonne célébration d'Adossa Gadao, même si c'est déjà passé.
Mais ça continue dans les familles.
Oui, dans les familles, effectivement.
Je salue la mémoire du père de l'indépendance, Silvanus Olympio, 60 ans qu'il est décédé. Peut-être nous le remarquons nous pas assez. Je pense qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de mettre à l'actif du chef de l'État, dont je pense à démarche de réconciliation, tout ce qui a été fait pour le 13 janvier, qui n'avait pas forcément la même célébration autrefois. Et je pense que, en tout cas, moi j'ai participé à quelques célébrations sous le leadership du président, et disons que le fait que ça soit devenu quasiment une date... je ne veux pas dire banal.
Banal, oui.
C'est
symbolique. C'était...
Mais ça demeure une date chargée de symboles. Je pense que c'est un gros effort qu'il faut mettre à son actif. Et peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment. Ça fait partie des choses qu'il a faites. Je pense dans le sens d'apaiser d'une façon générale notre pays.
Parce que le 13 janvier a toujours divisé.
Bah, oui, effectivement. Oui. C'est clair que
deux célébrations.
Suivant les points de vue, on se trouve, c'est toujours extrêmement controversé.
Certains sont dans la célébration, d'autres sont dans la commémoration.
Effectivement.
Bon, je vous laisse la nuance. Sur la question de la monnaie, moi j'ai toujours eu le sentiment que nous, Africains, faisons un grand fantasme sur cette question de la monnaie. Je prends peut-être pas un bon exemple, mais la Guinée à sa monnaie n'est pas forcément devenue Singapour pour autant. Beaucoup de pays, et donc je crois que la question de la monnaie rentre dans le cadre de toute une politique économique qui fait le développement. Donc si nous, Africains, nous nous arc-boutons sur le fait qu'il faut sortir du franc CFA, je ne suis pas sûr que ce soit la solution à nos problèmes. Nos problèmes sont beaucoup plus globaux, et donc voilà, je pense qu'on... Et puis je me dis très sincèrement, l'écho, ce serait une très bonne solution. Parce que le sujet, à mon avis, n'est pas de désintégrer une zone franc. C'est trop compliqué à construire. Quand je prends
proche de nous, la construction de l'euro, qui n'a pas fini, qui continue. Quand on a la chance d'avoir une monnaie commune pour un certain nombre d'États, je crois qu'il faut, quel que soit le cas, le préserver. Maintenant, être arrimé à l'euro, désarrimé à l'euro, à un panier de monnaie, comme le disent les économistes, il faut avoir une réflexion là-dessus. Mais j'ai quand même l'impression qu'on se trompe de combat et que le vrai combat est beaucoup plus global. À mon avis, il tient d'abord à des mentalités, à un leadership collectif, avant d'être sur un certain nombre d'outils. Mais ça, si on ouvre ce débat-là, je pense qu'on
ne va pas quitter.
Ce n'est que mon... Non, de toute façon...
Il a la parole.
Oui, oui, de toutes les façons, ce qu'il vient de dire est très intéressant. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria, où le Naira a des difficultés, parce que là, ils viennent de sortir une nouvelle monnaie. C'est-à-dire, c'est un nouveau design du Naira. Mais le Naira qu'on utilisait, puisque ça finit, ils ont dit le 20, hein, le 20, on ne prend plus les anciens billets du Naira.
Je me souviens.
Au fait, si on veut nous plonger dans cette logique-là, ce sont les Européens qui font ça. Je me souviens en 2012, j'étais à un sommet à Accra. On voulait nous payer en dollars et l'avenir au canal Cédis à l'époque qui était plus coté que le dollar. Quand on payait les gens, mais on, le dollar était, était épuisé. C'est juste pour planter le décor.
D'accord, rapidement.
Et c'était on m'a voulu me payer en Cédis. J'ai dit non. Et le gars, il a dit que bon, je te paie un CDS, ça si, je te dis que c'est plus coté que le dollar. Et effectivement, quand nous étions revenus, moi j'ai eu 550 francs pour un New Ghana CDS, alors que le dollar était à 500 francs.
Donc, voilà. Nous allons refermer ce sujet pour revenir à l'ONATS. Nous sommes à la variable du temps.
Ok. Bon, après, sur la question de logements sociaux, je pense que c'est un mécanisme extrêmement complexe. Moi, je crois, en tout cas, sur le Kamokopo, contrairement à ce que disait Isidore tout à l'heure, il ne faut jamais regarder un projet immobilier comme. Effectivement, les pièces sont petites comme des poulaillers. Mais ce qu'il faut intégrer dans le coût d'une villa qu'on vous vend, c'est qu'il y a tout. Il y a le goudron. Il y a surtout de l'homogénéité du voisinage. Dans le Lomé que nous connaissons tous, vous n'allez pas voir un bar ou une église de Saint-Métoto venir se mettre à côté de vous dans une cité, etc., etc. Et puis, contrairement à ce qu'on évalue lorsqu'on construit sa propre maison, dans le cadre d'une opération planifiée, on vous livre une maison finie. Alors que nous tous, en général, eh bien, on construit nos deux pièces, on l'intègre quand on n'a pas mis les fenêtres, quand on n'a pas mis les portes, etc. On y va progressivement. Il faut aussi dire que ce type d'opération doit de plus en plus dans notre zone être soutenu par ce qu'on appelle des ressources à long terme. Pour qu'une banque vous prête un crédit immobilier, il faut qu'elle-même elle dispose de crédits à long terme. C'est notamment pour ça que des mécanismes comme la CRRH, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire, est disponible. Et donc, le souci serait que des banques commerciales qui ont en principe des revenus ou des fonds à court terme puissent s'appuyer sur ce genre de mécanisme-là et avoir des ressources à plus long terme pour le mettre en fait à disposition des populations pour qu'on puisse parler de crédit immobilier dans, à partir de 15 ans. Parce qu'en Europe, ça va dans des délais de 20, 25 ans, etc. Donc, c'est quand même un mécanisme extrêmement complexe. On a même le fonds spécial de financement de l'habitat qui est mis en place par l'État. Après, il y a des mécanismes qui sont là. Il faut rendre, je pense, tout ça un peu plus
dynamique. Le fonds immobilier existait avec la caisse d'épargne. Je me souviens.
Encore une fois, dans un paysage bancaire comme le nôtre, ce n'est pas simplement une question d'une banque. Il peut y avoir des guichets de banques commerciales qui sont dédiés à l'immobilier, comme il peut y avoir des banques de l'habitat, etc. Mais c'est encore une fois, c'est un large problème complexe.
Ok, d'accord. Nous allons revenir pour parler un peu du projet, sinon...
Alors, à partir de jeudi, du 19 au 21, nous nous rendons à Tapamé pour la deuxième édition de ce qu'on appelait l'ONAT à la rencontre du Togo. C'est-à-dire que nous, architectes, rassemblés au sein de l'Ordre national des architectes du Togo, nous allons à la rencontre des populations. Et donc, en général, ce genre de rencontre est précédé, nous le faisons déjà, par un certain nombre de tournées dans toute la région des plateaux, où nous allons à la rencontre des élus locaux pour leur dire, et je termine par la question que vous avez posée, à quoi sert un architecte?
Voilà.
Ben, il vous aide à mettre en forme, à concevoir et à conduire un projet de construction, aussi générique soit-il. Et donc, bien souvent, le sujet, c'est que quand vous avez un projet de construction, il vaut mieux le plus tôt que possible. Je dirais, moi j'ai l'habitude de dire, et beaucoup de confrères avec, avant même le choix du terrain, de vous approcher d'un professionnel pour qu'on vous dise, ok, en fonction de ce que vous allez avoir à faire, il vaut mieux que vous achetiez votre terrain là plutôt que là. C'était conseil avant même de commencer.
Généralement, c'est la peur du coût qui, enfin, qui oblige les gens à ne pas aller vers
comme
vous.
Toujours.
Ils sont très honorés.
Moi, j'ai l'habitude de dire non, du vin de Mawa, au la tuine et le bas. L'argent que tu ne donnes pas à un architecte, les cimentiers vont le prendre, les fabricants d'acier vont le prendre, les fabricants de gravier vont le prendre. Parce que eux, de toutes les façons, vous ne connaissez pas qui c'est. Et vous ferez quelque chose qui ne vous conviendra pas, que vous allez casser à un moment donné. Et donc, ce n'est pas une question de nous ne venons pas en plus. Nous venons vous aider à mieux utiliser. Maintenant, encore une fois, on ne force personne. Ceux qui, à la limite, se privent de cela, bien souvent, ils s'en mordent les doigts au bout du chemin. Mais nous souhaitons le bonheur à chacun dans son œuvre de construction, qui est une œuvre exaltante, mais difficile.
Pourquoi l'ONATS va à la rencontre de la population togolaise?
Parce qu'un peu comme vous le dites, comme le disait ce cher, mon cher ami Isidore tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont ancrées dans la tête de nos concitoyens. Et à commencer par les décideurs, où on a une certaine appréhension. Donc il faut quand même qu'on en fasse la démonstration. Quand quelqu'un vous dit que l'architecte est cher, est-ce qu'il sait combien coûte un architecte? Est-ce qu'il a fait la démarche de savoir combien ça coûte? Est-ce qu'il a demandé, est-ce qu'il a négocié une remise? Tout est négociable, voyez-vous. Et donc, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mise en place des collectivités territoriales, donc notamment des communes, nous avons des centres de décision qui sont décentralisés. Il faut apporter l'information aux décideurs de façon à ce qu'ils puissent savoir que nous sommes prêts à accompagner les communes en tant qu'entité. Et nous sommes aussi prêts à accompagner les citoyens partout où ils se trouvent pour peu qu'ils posent d'abord le problème. Si vous êtes malade et que vous avez peur de la dépense d'aller voir un infirmier, vous avez peur de la dépense pour aller voir un médecin, vous pouvez aussi aller voir un infirmier. Si vous avez une pathologie légère qui rentre dans sa compétence, tant mieux, il s'en sortira. Mais si vous avez une pathologie plus compliquée, je suis pas sûr que l'aide-soignant, sans aucun mépris pour l'attitude, hein, parce que je pense que c'est des personnels qualifiés qui ont des interventions extrêmement précises et qui peuvent faire un certain nombre de choses, eh bien, en fonction de la complexité de ce que vous allez avoir, je ne suis pas sûr que l'aide-soignant ou l'infirmière va pouvoir avoir, on va dire, une vue d'ensemble que vous offrirez à un médecin. C'est exactement de façon similaire un peu ce qu'on propose dans le cadre d'un projet de construction en disant adressez-vous à un professionnel. Même s'il ne sait pas tout, il a la prétention de savoir où tout se trouve et de vous orienter vers les bonnes réponses par rapport à vos préoccupations.
Donc, oublions les tacolons. D'accord, oui, posez une question.
Je voudrais savoir, vous allez aider les communes dans quel ordre? Parce qu'on sait que les architectes évoluent individuellement. Mais quand vous dites que vous allez aider les communes...
Il y a l'ordre.
Il y a l'ordre, mais comment ça va se faire?
Mais je pense qu'il y a différentes approches en fonction des besoins exprimés. Si la commune a un besoin d'édifier un ouvrage, nous lui disons, rapprochez-vous de l'ordre pour que l'ordre vous aide à choisir le professionnel qui va vous accompagner. À ce moment-là, s'il y a à choisir un professionnel, l'ordre est outillé pour organiser la compétition qui vous permettra de retenir le professionnel. Pourquoi nous disons ça? Les personnalités publiques, nous sommes tous contribuables. Et donc, je pense que dans le cadre d'une justice et d'une certaine équité, il serait bien que lorsqu'une personnalité publique va consulter des confrères, que cela puisse se faire dans des règles d'équité, de justice.
Dans le temps d'aussi.
Voilà. Et puis, je vous dirais par exemple, si vous avez une centrale nucléaire à construire, je suppose que la compétence qu'il vous faut en termes de gestion de projet va être beaucoup plus complexe que si vous devez aménager un parc urbain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous allez vous adresser, on va dire à l'ordre, l'ordre va dire, ah, par rapport à ce type de complexité d'ouvrage que vous avez, nous allons devoir établir un cahier de charges, présélectionner un certain nombre de professionnels, exiger un certain nombre de références, etc. De façon à ce que, eh bien, vous, en tant que maître d'ouvrage, vous puissiez avoir vos objectifs atteints parce qu'on va vous aider à atteindre. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est... Et on a beau être individuel, nous sommes bien conscients qu'à titre collectif, nous avons un message à porter pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est pour ça que nous laissons nos cabinets et qu'à titre bénévole, tous nos confrères, autant que possible, se mettent dans des groupes de deux ou trois pour aller à Dany, à Toung, à Ngotien, à Tapamé, à Palimé, bref, dans la région,
région
des plateaux.
Une question qu'on peut
faire. Une question.
On dit que bon, pour les collectivités locales et autres, là, c'est l'ANADEB qui est le maître d'ouvrage. Quelles sont vos
relations?
Ok, Patrick.
Bon, encore une fois, l'ONAT est une institution mise en place par l'État. Et donc, nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai, mais nous apportons l'information de notre disponibilité, en fait, aux décideurs pour qu'ils puissent se rendre. Parce que, je peux vous dire, l'année dernière, nous étions dans la région de la Cara, et je peux vous dire que nous sommes allés à la rencontre d'élus locaux qui disaient qu'ils n'avaient jamais rencontré d'architecte de leur vie. Bon, voilà. Ça veut juste dire que nous assumons la responsabilité du fait qu'il n'y en a pas qui soient proches d'eux, tout simplement. Et donc, on se dit, on est de plus en plus nombreux, nous sommes à peu près 200, un peu moins à exercer au Togo. Et donc, notre obligation, c'est aussi d'aller expliquer aux décideurs à quoi nous servons ONAT en tant qu'institution et à quoi servent les professionnels qui sont à l'ONAT. Voilà. Et donc, je suppose que quand le décideur va avoir l'information, il va pouvoir décider en toute connaissance de cause. J'espère que j'ai répondu à votre
question. Je vous exhorte à approcher la NADEB ou le ministère du Développement de la Base pour qu'il y ait une collaboration dans la réalisation de ces travaux. C'est très important parce que le mode d'ouvrage aujourd'hui au niveau des communes, c'est la NADEB.
Il y a la NADEB, il y a le PAPV qui font un certain nombre d'ouvrages, etc., en fonction de la complexité.
Il faut les approcher pour... une franche collaboration.
Nous en prenons note et nous nous approchons, on va dire, de toutes les corps constitués ou on va dire, les structures. Avec la NADEB, sauf erreur, la NADEB a même en son sein, on va dire, des architectes pour un certain nombre de choses. Mais encore une fois, les fonctions de la NADEB sont extrêmement claires par rapport à un certain nombre d'ouvrages. D'une certaine complexité sur laquelle ils interviennent.
Non, là, c'est quand même un peu étonnant de dire que la NADEB a en son sein des architectes, puisqu'il y a des ouvrages que la population conteste par rapport
à leur réalisation.
Par rapport à leur réalisation. Oui, Patrick, et donc, allez-y. Ce que je préconiserais plutôt, cette sortie-là, elle est importante pour nous tous. C'est vrai que nous achetons nos terrains n'importe où, et les gens même achètent des terrains des terrains marécageux, où ils ne pourront même pas vivre longtemps, parce que après la construction, peut-être quelques années, ça s'effondre et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous sortez, vous rencontrez les populations. Le message que vous passez à cette population, est-ce que c'est un message commercial ou c'est juste un message pour la connaissance de votre...
D'accord, ajoutez à cette question, vous allez nous dire en même temps les activités qui sont prévues à l'occasion de cet événement, quoi.
Non, notre démarche et notre corporation n'est certainement pas commerciale. Nous avons... Et nous prêtons serment et nous avons en tant que profession libérale des obligations qui sont tout sauf commerciales. Et donc, si nous le faisons dans le cadre de l'ordre, c'est justement l'ordre qui a la vocation à promouvoir le métier d'architecte. Et donc, nous présentons notre savoir-faire ainsi que nos solutions, notamment à travers ce que nous appelons des consultations gratuites où nous présentons en fait ce que nous pouvons faire à un certain nombre de gens qui peuvent avoir des problématiques pour leur donner des conseils. Quand on dit consultation gratuite, ça ne veut pas dire que vous venez m'apporter un projet de château à construire.
Gratuitement.
Là, je suis désolé.
Parlez-nous des activités.
Dans le cadre des activités que nous avons, jeudi, vendredi et samedi, nous serons à Tapamé. Et donc, nous avons essentiellement une cérémonie d'ouverture. Nous avons une assemblée générale. Et comme nous l'avons dit, nous avons des activités, une conférence thématique, une conférence scientifique animée par un certain nombre de personnalités ministérielles. Sauf erreur, je pense que le professeur Ayouadan est annoncé. Le ministre Audin est également annoncé, ainsi qu'un certain nombre de professionnels architectes et urbanistes sur des thématiques scientifiques. Voilà, nous avons aussi, comme je le disais, une consultation foraine où tous ceux qui sont dans la région des plateaux, tous ceux qui sont à Tapamé, peuvent venir notamment dans l'après-midi du vendredi, échanger avec les architectes, prendre des contacts, etc., poser des problèmes, qu'on puisse répondre à vos différentes interrogations. Moi, j'ai toujours dit à mes amis autour de moi, si vous avez un projet de construction et que vous ne posez pas le problème, alors que vous avez la chance de connaître un professionnel qui puisse vous dire faites ci, faites ça. Vous savez, je vous donne un exemple. Vous pouvez acheter une serrure à 7 500. Au bout de 2 ans, elle va se coincer. Et le jour où elle se coince, vous perdez du temps. Vous devez casser la porte. Vous alliez quelque part, vous êtes pointé, etc. Alors que vous mettriez peut-être, 12 500 dans l'achat de cette même serrure qui va durer 20 ans. Donc parfois, La question, du coup, telle que le grand frère Isidore le disait tout à l'heure, nous fait perdre de vue, quand vous répétez moi l'expression, mais nous agissons en pauvres, sans aucune considération, et nous oublions que nous perdons du temps, de l'énergie, mieux, nous perdons de l'argent. Sur un certain nombre de choses. Donc, à certaines réflexions, quand on les fait, quand on les mûrit correctement, je pense qu'on optimise un peu son investissement. Et le peu de ressources que l'on a, durement gagnées sous le soleil d'Afrique, eh bien, nous vous souhaitons que vous l'utilisiez de façon judicieuse et de façon optimale.
D'accord. Merci, Patrick Amenda. Vous restez avec nous.
Pour le paraphraser, il vaut mieux acheter Tigan que d'acheter TV.
Bon, en tout cas.
D'accord. Ok, merci à vous tous.
Nos aînés ont la formule.
Isidore Akolor, puisque vous avez la parole, Actu Express évoque aujourd'hui la consommation locale avec un article sur le tilapia. Promotion de la consommation locale, tilapia made in Togo, une arête dans la gorge des distributeurs de poissons, titre le journal.
C'est un constat, et c'est pas si vous êtes déplacé encore et dans cette frigo de nos quartiers pour acheter un kilo de tilapia. Et aujourd'hui, à l'époque, on l'achetait à 1700 francs. Le kilo aujourd'hui, c'est, vous allez débourser 2500 voire 2700 francs pour avoir le kilo de tilapia, effectivement. Et il s'est fait que bon, il y a eu une interdiction d'importation du tilapia et de la Chine. Et moi, je suis un friand des poissons braisés. Hein.
Moi aussi, si ça peut être.
Vous y allez, à l'époque, vous pouvez trouver tilapia braisé à 2500, 3000. Aujourd'hui, c'est 5000 à 7000 francs que vous allez trouver ça. Est-ce que je m'en...
Les connaisseurs sont là.
Oui, voilà la situation. Mais on a cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Et on est tombé sur un arrêté ministériel en 2018 qui interdisait l'importation de tilapia chinois et qui est d'une qualité douteuse, avouons-le. Et beaucoup de Togolais se sont jetés et dans la mer pour pouvoir produire localement et des tilapia de bonne qualité. Sauf que cette tilapia coûte cher, excessivement cher pour la bourse des Togolais, moyens que nous sommes. Et en 2019, quand ils avaient commencé à Nangbeto, le tilapia de 10 kilos de tilapia était vendu à 18 000 francs contre 10 000 voire 11 000, 12 000 au maximum pour les tilapia importés. Néanmoins, il va falloir promouvoir la consommation locale et le gouvernement avait décidé avec l'aide de l'interprofession aquacole de pouvoir faire la promotion de cette production locale. Et bon, on a imposé un quota pour toute importation. Ça veut dire que si vous voulez importer une tonne de poissons akbala que nous mangeons très bien, et vétime ou, comment appelle-t-on, et salomon, vous devez acheter 10% auprès du tilapia produit localement, notamment tilapia madia, qui est produit bien conservé et au niveau de Nangbeto. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé progressivement. Les gens n'arrivaient plus à couler le stock. Et ça se gagnait dans leur frigo ou chambre froide. Bon, et après de moultes tractations, on a réduit ça. En mai 2022 à la moitié, c'est-à-dire que si tu veux faire tu veux importer d'autres produits que tilapia au Togo sur une tonne, appelle un conteneur, il faut acheter 100 cartons de 10 kilos. Mais progressivement au cours de deux années, le prix du tilapia produit au Togo est passé de 18 000 à 22 000, voire 25 000. C'est ce qui fait que les gens n'arrivent plus à se l'acheter. Et ça crée un dommage pour les importateurs et les distributeurs, au point que, bon, certains même sont obligés, pour avoir le quitus, de pouvoir importer les poissons, autres de variétés de poissons que tilapia, doivent justifier de cet achat-là. Donc, ils achètent ça à 22 000. Des gens bradent ça à 22 000, 100 francs, D'autres même sont, on va dire ça, à 21 000 pour pouvoir le quitus, de pouvoir l'importer. D'accord. Et nous disons que c'est une très bonne chose de promouvoir la consommation locale, mais il ne faudrait pas que ça soit un rouleau d'étranglement aux opérateurs économiques. Nombreux sont ceux-là et, bon, qui n'arrivent pas à le dire et, parce que c'est une décision politique. Et ils se disent que, bon, beaucoup de, quand vous lisez l'article, beaucoup ont dit, mais ils ont requis l'anonymat pour ne pas se faire taper dessus. Et nous disons que bon, il va falloir sonner l'alerte pour que nos autorités puissent savoir ce problème parce que, mine de rien, ces importateurs de produits, des poissons congelés là, finiront par mettre la clé sous le paillasson.
D'accord. Merci Isidore Akolo. Alors, Eric Johnson, le chef de l'État a entamé récemment un forum, enfin, des échanges directs avec les producteurs. Ça peut contribuer à résoudre le problème que Actu Express soulève, n'est-ce pas?
Oui, évidemment. Je pense que la production locale, surtout en termes d'aquaculture, est très élevée en termes de coûts. Et donc, si vous êtes obligé de produire et que vous n'arrivez pas à écouler sur le marché, je crois que cela ne sert à rien. Donc, c'est pour encourager justement la production locale que ces décisions-là ont été prises. Mais encore qu'il faut se demander s'il y a quand même le marché pour ces genres de poissons. S'il n'y a pas le marché de tilapia, il faut voir quelle est la part de marché, il faut produire pour ce marché. Maintenant, si c'est d'autres poissons que les gens préfèrent, il faut plutôt promouvoir ces cultures-là. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, le dialogue que le chef de l'État a entamé dans les savanes avec les producteurs agricoles, c'est une très bonne chose. Ça lui a permis d'écouter directement ces producteurs-là, d'entendre les problèmes qu'ils ont sur le terrain. Vous savez que la région des savanes est une zone très aride où la culture agricole est très difficile. Et donc, il faut forcément aider ces populations. C'est pour ça, les populations, quand ils ont commencé par parler au chef de l'État, elles ont dit tout de suite que nous voulons la politique de l'irrigation de nos sols. Parce que sans ça, on ne peut pas faire de l'agriculture. Et donc, au-delà de tout ça, ils ont donné d'autres situations très délicates que le chef de l'État a essayé d'englober pour dire aujourd'hui, avec le projet PURS, on est en train de régler petit à petit les problèmes que vous avez dans la région.
D'accord. Merci à vous tous. Nous marquons une pause commerciale et on revient.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Retour pour la dernière partie de cette émission. Honneur aux éditeurs. Il y a déjà un auditeur en ligne? Pas encore. Oui, déjà. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Fouquet.
Oui, c'est comment monsieur? Vous allez? Allô? C'est monsieur? Patrick. Monsieur Patrick. Patrick. Ouais. Oui, on vous écoute.
Merci. Alors, permettez-moi de poser deux questions à votre invité, mon homonyme.
Oui.
Patrick qui est avec vous.
Patrick Kamenda.
Voilà. Bon, je l'ai suivi. Il a fait un très bon développement sur le sujet que vous avez débattu ce jour. Sauf que il y a un sujet qui m'a paru un peu sombre. Mais comme il a su expliquer, je vais vous poser deux questions.
D'accord.
Concernant le franc CFA, ben, mon homonyme, monsieur Patrick, a semblé dire que le franc CFA n'est pas un problème en tant que tel. Mais pourquoi? Puisqu'il a donné l'exemple de la Guinée.
Oui.
Que la Guinée a son franc, mais n'est pas le Singapour de l'Afrique, c'est vrai. Mais combien la population guinéenne, combien de pays consomment le franc guinéen? Eric a su donner l'exemple du Naira. C'est vrai qu'il y a un petit problème. Mais le poids de la population a fait que, au moins, le Naira émerge un peu. On voit un peu l'économie nigérienne. C'est un peu en avant. Mais tout ce que nous demandons côté franc c'est ça. Mmh. Et Kakoumi Boukou a su bien dire ça. Vous savez, on ne peut pas consommer un franc et qu'un pays détient la monopole, le monopole plutôt de ce que nous consommons. C'est anormal. Mmh. Comment on peut dire que le franc CFA ou bien voilà, a des réserves quelque part? C'est anormal, c'est tout ce que nous dénonçons. Sinon, le billet même, en somme, n'est pas un problème. Mais pourquoi un autre pays étranger va détenir la commande de ce que nous consommons? C'est ça le problème. Donc, il n'a qu'à vous expliquer. Si lui est d'accord que le pays en question détienne la tête de ce que nous consommons, si c'est normal ou anormal. Voilà.
D'accord. Deuxième question.
Deuxième question, bon, au fait, concernant la consommation locale, là. Vous savez, il y a un paradoxe même que moi je ne comprends pas. On nous dit de consommer le local. Mais au même moment, allez-y sur le marché. Comme vous venez bien de le dire, le poisson que Nagoto nous livrait entre temps, vous avez dit le 10 kg était à combien? À 18 000. Alors que le poisson importé est à 10 000. Mais prenez le riz d'agrobecouze ou bien de Corvier. Le bol est à combien par rapport au riz importé? Vous voyez que vraiment, il y a une différence, quoi. Mais c'est le Togolais, combien il gagne? Et il va débourser 18 000, alors qu'il y a aussi un autre poisson qui est à 10 000. C'est vrai que, bon, on veut manger bio. Mais bio, là, mais c'est l'argent. Bio n'est pas gratuit.
D'accord.
Le bio n'est pas gratuit. Donc, il va falloir qu'on subventionne ces produits-là pour qu'on puisse vraiment consommer le Togolais.
D'accord. Merci, M. Patrick. D'accord. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75, 98, 87, 78, 37. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
On est là, on n'arrêtera jamais de parler de ce pays. Je suis cher tout. Voilà. On raconte que l'étude devrait sortir la monnaie le 14 janvier. Il a été assassiné. C'est que la monnaie existe, non? En bonne et due forme. Tout ce qu'il y a à la Banque centrale, du Togo, tout ça. Donc, c'est que la monnaie existe. Et où se trouve actuellement ça, le truc? Bon, maintenant, le régime qui a hérité de cet assassinat est jusqu'à 60 ans après. Le régime est toujours là. Je leur propose de négocier avec les héritiers d'Olympio, pour leur passer la main. Eux, ils sont courageux, ils pourront affronter le blanc, le colon plutôt. Et puis, on va avancer, quoi. Ils n'ont qu'à négocier. Ils nous font grâce des élections à coup d'une milliard pour rien. Et puis, ils leur passent la main. Et Olivia Sérité, qui ont de bonnes idées, de très bonnes idées, on pourra vivre heureux avec ces gens-là. Donc, on est au Bédongo Domaine. Mais avancer quoi, on laisse les guerres, tout ça là. On est assez nous. Hein, bien avancé. Pour l'histoire des bords qu'on veut raser au bord de la route, tout ça là. Mais attends, on apprend à dire que les gouvernements en fabriquent pour louer aux gens. Hein? Et même autour de l'université, on a vu ces conteneurs là, tout autour de l'université. Mbédi, il faut alterner.
Ok, merci à vous. Bonne journée. Allô? Allô? Allô?
Allô, bonjour monsieur.
Oui, bonjour. C'est monsieur?
C'est Abdoul.
Monsieur Abdoul, on vous écoute.
Oui, j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement même ne crée pas les champs d'agriculture, même pour l'élevage, alors que le Togo a beaucoup de terrains cultivables. Le gouvernement instaurer ça dans sa réforme, parce que si le gouvernement même produisait suffisamment le maïs et de sorgho, je pense que ça va encore diminuer la famine. Même on n'a qu'à faire l'élevage au Togo pour le gouvernement même, c'est pas pour les privés, parce que c'est comme ça l'Amérique et la Chine ont fait et ils sont en avance sur tous les pays. Maintenant le gouvernement n'a qu'à acheter des tracteurs, même les hélicoptères pour arroser les champs, comme ça le revenu vient dans l'argent du gouvernement et les jeunes seront embauchés pour ça, pour que les émigrants diminuent. Moi, s'il y a du travail et que les gens ne veulent pas travailler, là, on va savoir. Mais il n'y a pas du travail. Le gouvernement ne crée rien. Et tout le monde est là. La saison même ne nous avantage pas parce que les gens n'ont pas les moyens. Alors que le gouvernement a l'argent dans les trésors publics. pour créer des champs agricoles pour que les gens soient embauchés et que ça donne quelque chose au moins dans la société. Ainsi que Dieu bénisse le Togo.
Merci à vous, monsieur Abdoul. Allô? Il n'y a pas. Allô?
Allô?
Ah, décidément, il y a quelqu'un.
Allô?
Ah oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
Ali.
Monsieur Ali, on vous écoute.
Oui, mes respects à tout le plateau. Oui, je tiens à rappeler ceci, que vraiment l'histoire togolaise, tout ce qu'on a jusqu'à présent, est fait de faux et du faux. Et surtout, par rapport à une utilisation erronée de mots colonisateurs, en choisissant, par exemple, la France comme colonisateur du Togo, qu'on vient de nous élucider qu'on était sous tutelle. Maintenant, l'Allemagne même n'est pas colonisateur du Togo, retenez ça. Parce que c'était un accord de protectorat. Protège-moi, tu ne me colonises pas. Et à partir de ça, même la guerre, qu'on dit que l'Allemagne a perdu, on a partagé le Togo entre la France et l'autre colonisateur.
L'Angleterre.
Oui, c'était pas juste. Donc c'est de l'injustice en une injustice. Et revenir à l'agriculture, s'il vous plaît. Est-ce que c'est les producteurs agricoles qui vont rappeler au gouvernement que à l'étape actuelle, c'est l'irrigation qu'il faut? Les experts de du ministère de l'Agriculture font quoi? S'il vous plaît. Tout ce qu'on a investi dans l'agriculture jusqu'à présent, on vient de changer de sigle des forums passés, sans audit, et on dit, voilà, première édition, région par région, et on profite de ça pour faire bain de poule pour le président, préparer sa campagne, et surtout les amis. L'agriculture, il nous dit que c'est le développement du Togo va passer par le développement de l'agriculture. Mais il ne met rien en place pour cela, parce que sortir l'argent n'est pas problème. Maintenant, les audits, et surtout, punir ceux qui détournent l'argent. Et c'est pourquoi nous autres, qui voyons que ils aiment le bain de foule, mais ne travaillent pas à ce que l'argent sorti soit vraiment pratique sur le terrain.
D'accord. Merci, monsieur Ali.
S'il vous plaît. Ceci, je le dis parce que l'agriculture a besoin d'une banque agricole pour pouvoir être vraiment financée à taux faible et avec un remboursement une période de remboursement bien allongée sur 5, 15, 20, 20 ans. Et non, un an, deux ans comme les microfinances.
Les microfinances.
Merci.
D'accord, merci à vous. Allô? 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 Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Faram de Segbe.
On vous écoute.
Voilà, je n'ai rien de spécial. C'est pour vous faire un coup pour le club de la presse. Je salue particulièrement mon ami Isidore Akolo, je ne sais pas s'il se souvient de moi. Bon, c'est pour faire un coucou au club de la presse. Merci pour tout ce que vous faites.
Merci à vous. À très bientôt. Allô? Allô, 22-21-33-74. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Bozambo.
Monsieur Bozambo, on vous écoute.
Le chef de l'État, il me semble qu'il y avait des projets, bons projets sur sa tête ou bien son développement, mais le suivi ne le regarde pas. C'est ça qui est mauvais de lui. Il pense l'avenir du peuple, mais s'il a mis l'argent dedans, au lieu de contrôler, de surveiller, il est parti pour dormir, pour penser à d'autres choses. Un chef d'État ne se fonctionne pas comme ça. Lui-même, il a dépassé à Lomé, à venir à Badja, poser une pierre. Ça fait 9 ans. Puis il va faire une ferme agricole de levage. Il est quitté là-bas, il est parti à Abou, là où on a mis le sonaf, là, le panier là. Donc, de raser, de faire là-bas contre l'agriculture pour développer le Togo. Jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est un chef de l'État, hein. C'est un ministre, c'est un simple individu. Donc, qui peut référer le chef de l'État dans nos pays?
Il y a plusieurs priorités, il ne faut pas l'oublier.
Non, 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 tous les jours, j'interpelle. Si je l'incite maintenant, on peut me venir me chercher à la maison. Je t'appelle tous les jours sur les médias. Au lieu d'amener ce que lui-même a venu poser les pieds, et le pied est toujours dans la bouche. Au lieu de nous écouter, de venir, de faire quelque chose, il est, maintenant on dit qu'il est à Dapaon, et il fait des dons, il fait des dons. Et ce qu'il a, le pied qu'il a posé, où se trouve?
Hein? Merci, monsieur Bozambo.
Merci et bonne émission.
Merci à vous, bonne journée. Allô? Allô, 91 36 63 75 98 87 78 37. Allô, le dernier auditeur.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur
Johannes.
Monsieur Johannes, on vous écoute.
Écoutez, le chef de l'État n'ira pas écouter chez les agriculteurs d'abord, n'ira pas écouter des choses qu'il n'a jamais écoutées. C'est-à-dire, avant même d'aller là-bas, il sait de quoi la culture togolaise a besoin. Il n'a pas besoin d'aller faire un bain de foule avant de savoir de quoi la culture togolaise a besoin. Depuis combien de temps il est là? Ça fait plus de 15 ans. Combien de fois n'a-t-il pas parlé de la culture? Et en quittant Lomé, il s'est d'abord, les terres qui sont vides à Lomé, tout ça là, est-ce qu'il les a vus? Je pense que s'il les a vus, il doit y penser comment faire pour fructifier cette terre avant d'aller à Dapaon. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'à Dapaon. Voilà. Donc, d'accord. Comme un auditeur l'a dit, il ne faut pas qu'on nous fasse un semblant de début de campagne. Et puis, vous savez,
pour terminer,
l'agriculture ne se développe pas dans les bureaux, tout ça là. On n'a pas besoin de tout ce folklore pour développer l'agriculture.
D'accord.
Les moyens qui sont mis, même devant le chef de l'État, c'est-à-dire les engagements qui sont pris, ces engagements ne sont pas respectés. Et que à une prochaine rencontre, ces mêmes personnes répètent les mêmes engagements. Et que le chef de l'État ne dit rien. Vous voulez qu'on développe l'agriculture comment?
D'accord. Merci, monsieur Bozambo. À très bientôt. Alors, nous revenons pour terminer en toute beauté cette émission. Patrick Amenda, vous avez été interpellé à un sujet.
Ouais, le premier sujet sur lequel...
Allez-y.
Sur lequel mon homonyme intervenait, je crois que je l'ai dit, le sujet du franc CFA, c'est effectivement la question de la souveraineté, les liens que nous avons avec l'euro ou avec la France. Et je ne pense... Il faut pouvoir s'en désolidariser. Voilà, donc je suis d'accord avec, de ce point de vue-là, avec moi, mon débat n'est pas là. Mon débat, c'est juste que quand on dit sortons du franc CFA, est-ce que c'est juste nous désarimer du franc français ou c'est disloquer, on va dire, la zone franc? Parce que la zone franc, c'est quand même un certain nombre de critères de convergence, il y a un certain nombre d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Et sur cet aspect-là, j'estime que l'Union est tellement difficile à faire qu'il vaut mieux préserver cette entité et cette unicité de marché parce que, bon, voilà, quand on regarde la difficulté de la construction européenne, on se dit, nous avons déjà un outil, ce n'est pas la peine de le disloquer. Ça, c'est réellement mon point de vue. Ensuite, je considère encore une fois que nous nous arc-boutons sur ce sujet-là, alors que c'est un parmi des tas d'autres et que le débat est beaucoup plus complexe et plus large que celui-là. Bon, donc, sinon, je pense que, bon, ce problème sera réglé, mais de toutes les façons, si les mentalités n'ont pas évolué et que nos leaderships n'ont pas évolué, franchement, rien ne se passera.
D'accord. Vous gardez le micro. Vous gardez le micro pour la conclusion.
Encore une fois,
au sujet du projet.
Oui, encore une fois, nous voudrions inviter tous les auditeurs et tous ceux qui nous suivent, notamment sur les différents canaux de Canal FM, à ce que les 19, 20 et 21, c'est-à-dire jeudi, vendredi et samedi, là, à côté, nous puissions nous rassembler sur Atapamé. Si vous êtes dans la région des plateaux ou dans la ville d'Atapamé, faites un tour justement à cette l'ONAT à la rencontre du Togo. Nous avons rencontré un certain nombre d'élus déjà dans la région des plateaux et nous poursuivons avec cela pour vous rappeler que le professionnel de la construction se rapproche de vous et que quelle que soit votre préoccupation, franchissez le seuil d'un architecte, posez des questions, demandez combien ça coûte. Vous serez parfois très agréablement surpris des solutions que nous pourrons vous apporter dans des conditions de coût totalement accessibles. Si vous avez de quoi construire une maison, c'est pas payer un architecte qui vous dépassera.
Merci, monsieur Patrick Amenda, porte-parole de l'UNATS. Alors, Il est temps de passer au carton. Éric Johnson.
Alors, sans réaction sur ce que
les auditeurs.
Auditeurs ont dit.
Oui, en quelques secondes.
Je voudrais réagir par rapport à un sujet sur l'agriculture où l'auditeur parlait de l'irrigation. C'est un sujet parmi tant d'autres que les producteurs agricoles ont évoqué devant le chef de l'État. Je disais donc que c'est très important parce que, vous savez, il y a certaines situations que les autorités ne connaissent que lorsqu'ils sont eux-mêmes directement sur le terrain ou en face de des premiers interlocuteurs qui ont été la dernière fois les producteurs agricoles de la région des savanes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il faut faire l'irrigation dans les savanes. Il y a beaucoup de projets qui ont été déjà lancés, mais toujours est-il que c'est insuffisant, il faut le reconnaître. Sinon, on n'allait pas rebouter les gens pour parler encore de l'agriculture dans la région.
D'accord.
C'est parce qu'il y a une situation où il faut aider les agriculteurs, les producteurs, pour qu'ils puissent aller de l'avant et pouvoir nourrir la population qui souffre énormément.
D'accord. Alors maintenant, carton.
Alors, j'ai pas de carton aujourd'hui, je passe.
D'accord. Isidore Akolor.
Non, rebondir encore là où prendre la balle au bon. Je me dis que bon, on a trop fait de ces forums, de ces choses-là. Allons au concret. Moi, je reste toujours nostalgique du programme Jeunesse Pionnière Agricole. Et oui,
ça c'est l'ancêtre.
Non, ce qui a fait ses preuves. Allons là. Et même quand on nous parle des agropoles, ces choses-là, je dis que c'est une très bonne chose. Allons-y. Allons dans le concret, c'est très important.
C'est un processus.
Oui, mais ces forums ou ces forats, on dit un forum et les forats. Oui. Donc ces forats-là, on n'en a pas besoin. Et allons aux choses concrètes.
D'accord.
Et c'est ce que je voulais dire.
Oui, il faut.
Est-ce que
le MIFA ne vient pas.
Non, le MIFA, c'est un programme.
Oui.
Je parle des forats, des rencontres et autres là, qui vont coûter des millions, 5 millions. On peut l'investir à faire l'irrigation. Surtout, notre problème, c'est la maîtrise de l'eau.
Nous sommes talonnés par le temps. Il doit vous donner le carton.
Le carton, je vais encore réitérer ça. J'en ai parlé. Oui, c'est le feu rouge. Ça, je suis devenu.
Monsieur feu rouge.
D'accord. Monsieur feu rouge. Et réglementons, réallumons ou bien réadaptons nos feux tricolores. Parce que c'est source d'accident. Il ne faudrait pas qu'à chaque moment qu'on nous dise que bon, il y a tel nombre d'accidents, alors que nos feux tricolores ne fonctionnent pas. Vous êtes urbaniste, ce n'est pas normal. On n'a pas garni nos ruelles, nos artères, des guilantes. Mais cet argent-là, on pouvait l'investir dans la réparation des feux tricolores. Moi, je le dis, je vais toujours le dire, je continue toujours pas le dire. Et jusqu'à ce que je puisse avoir.
D'accord, carton rouge. Eric.
Oui, j'allais oublier justement. Oui. Il y a bientôt la consultation, les élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Mmh. Et donc, c'est un sujet, j'avais pensé qu'on allait en parler que c'est très important pour tous ceux qui ont quand même. Une unité de production ou de commerce ou de je ne sais quoi pour pouvoir participer à cette élection consulaire. C'est très important. Une fois que vous avez une entité, il faut participer à cela. Ça va essayer de booster le niveau de notre commerce dans le
pays. Ça veut dire qu'il faut être inscrit sur la liste.
Oui,
il faut avoir sa carte de ressortissant.
Il y a des conditions.
C'est très important.
Parce que la transition a trop duré.
D'accord.
Il faut aller à une élection.
Merci à vous tous. Isidore Akolor du journal Actu Express, Éric Johnson du journal Union, et puis nous avons eu notre invité Patrick Amenda, qui représentait l'ONATS.
Je suis Fouseni Saïbou. L'ONATS, il est avec nous.
De notre corporation également. D'accord. Alors, la technique a été assurée par Thomas Dativi, mise en ligne Géraud Akoucha. Je suis Fousséni Saïbou. À très bientôt.